9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Allez, à votre santé, bonjour et bienvenue. On va répondre ce matin à une question que vous vous posez tous avec mon invité Christophe Brusset. Bonjour et bienvenue.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Vous avez quitté le côté obscur de la food business pour défendre l'intérêt du consommateur et vous publiez maintenant On mange quoi, sous-titré un ancien industriel de l'agroalimentaire, vous aide à faire le bon choix et c'est chez Famarion. Il va nous aider à faire le bon choix et il nous l'aide déjà tous les jours. C'est Manuel Mariani. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe.
Christique.
Non, vous êtes Christique. Très Christique, ouais, c'est vrai.
Critique gastronomique sur Beurre FM. Bien, votre livre, c'est la boussole de survie, justement pour survivre dans la jungle de la malbouffe. Vous dites que, et vous commencez par un chiffre impressionnant, la moitié des adultes aujourd'hui, en tout cas plus de la moitié des adultes, est en surpoids ou en obésité aujourd'hui.
Effectivement, mais ce sont les chiffres de l'OMS et on ne parle que de l'Europe. Donc ces chiffres-là s'appliquent à l'Europe, sachant que c'est encore pire au niveau des États-Unis ou des pays comme le Mexique ou éventuellement le Turquie, Égypte. Donc en Europe, c'est effectivement 50% des gens qui sont en surpoids et 20% qui sont carrément obèses.
On pense à tous ceux qui sont en train de manger, hein, déjeuner, petit déjeuner, en ce moment, qui sont en train d'avaler leur bol de céréales. Alors, vous n'êtes pas tendre avec les céréales. Quoique le pire chez vous, c'est le miel.
Bah écoutez, je parle beaucoup du miel parce que j'en ai acheté pendant longtemps. J'étais un gros acheteur et je connais bien le produit. Mais on pourrait parler des épices, on pourrait parler des plats préparés, enfin des sodas.
C'est l'heure des cornflakes. Alors là,
C'est un nid à cochonneries, les cornflakes.
Les cornflakes et aussi les poudres chocolatées pour petit déjeuner, par exemple. On est dans des proportions de 80% de sucre pour 20% de cacao, par exemple.
Il y a 3 ans, vous publiez Vous êtes fou d'avaler ça. Est-ce qu'avec du recul, vous réalisez que vous avez été ce qu'on appelle un lanceur d'alerte?
Effectivement, il y a 3 ans, j'ai publié ce livre-là et j'avais été invité chez vous avec Chef Voilà. Je m'en rappelle, c'était un très très bon souvenir. Alors effectivement, on me qualifie de lanceur d'alerte, mais je ne fais que décrire ce que j'ai connu et ce que j'ai vu dans le milieu industriel. Et je l'explique aux consommateurs pour que les gens se réveillent et reprennent le pouvoir.
Comment répondre à cette question? La nourriture industrielle est-elle dangereuse pour notre santé?
La nourriture industrielle est définitivement dangereuse pour notre santé. Alors je le dis, mais je ne suis pas le seul, puisque une étude INSERM toute récente indique que si on augmente sa consommation de nourriture industrielle de 10%, on augmente ses risques de cancer de 12%. C'est la première étude scientifique qui montre une corrélation claire et nette entre la nourriture industrielle et la santé.
Alors vous le dites parce que vous le savez, mais il y a beaucoup de gens qui le savent et qui ne le disent pas parce qu'il y a des intérêts financiers, économiques qui sont phénoménaux.
Effectivement, c'est une excellente question et le principal problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la véritable collusion entre les pouvoirs politiques qui décident et les industriels et distributeurs qui sont le pouvoir financier.
Notamment Bruxelles. En première ligne, hein, souvent.
Mais pour moi, je ne fais pas de différence, si vous voulez, entre Bruxelles et les politiciens français, puisque les gens à Bruxelles sont des gens élus ou envoyés par les différents pays.
Ça, on est d'accord.
Politiciens français ou de Bruxelles, ce sont les mêmes.
On va dire ceux qui font les normes.
Ceux qui font les normes.
Ce que je voulais dire par là, c'est que plus on avance, surtout depuis le traité de Lisbonne, hein, contre lesquels les Français avaient voté par référendum, mais qui a été repassé par voie parlementaire. Selon le traité de Lisbonne, peu de temps après, depuis le traité de Lisbonne, de toute façon, la marge de manœuvre des gouvernements nationaux européens est devenue quasi nulle par rapport au rouleau compresseur de Bruxelles en termes d'alimentation et autres. Mais là, on parle d'alimentation.
Mais effectivement, en fait, vous parlez du traité de Lisbonne et il faut savoir en fait que ce traité de Lisbonne a été ratifié en France après le refus du référendum du peuple français et ça a été ratifié par le Parlement français.
Ouais.
Donc le problème n'est pas l'Europe, le problème c'est avant tout le Parlement français et les politiques français qui sont pas fichus de défendre la population.
Oui, mais là de toute façon, même s'il y avait une volonté nationale depuis le traité de Lisbonne, on ne peut plus modifier cette constitution qu'à l'unanimité de tous les pays membres, ce qui est statistiquement pratiquement impossible.
Bah, regardez, les Anglais ont voté le Brexit et quittent l'Europe.
Oui, c'est le seul moyen aujourd'hui de s'affranchir des règles européennes, enfin de cette constitution européenne.
Alors, on peut discuter. Je veux dire, l'Europe est un ensemble, est une association d'États. Et s'il y a vraiment un sujet sur lequel un État a une position forte et claire, je pense qu'il peut défendre des intérêts.
Et par parenthèse, on parle de l'Angleterre. Vous dites que finalement, les produits industriels anglais seraient presque moins mauvais.
Alors moi, j'ai effectivement travaillé pendant assez longtemps pour
l'exemple des sandwichs, par exemple.
Effectivement, j'ai travaillé pour une multinationale anglaise. Donc le siège était en Angleterre et je travaillais moi sur le continent. Et effectivement, les sandwichs qui étaient fabriqués en Angleterre étaient beaucoup plus qualitatifs que les sandwichs que je fabriquais moi en France pour des raisons... c'est-à-dire que le standard local était plus qualitatif que le standard français. Donc effectivement, pour ces produits-là, ils avaient une meilleure qualité.
Bah, un exemple, parce que c'est des produits qu'on retrouve en France, si vous prenez les sandwichs par exemple, ou les plats préparés de Marks & Spencer Food, qui sont fabriqués en Angleterre, c'est vrai que quand on lit les étiquettes, il y a quand même beaucoup moins de cochonneries que dans les sandwichs de marque française, franco-française, qu'on trouve dans les supermarchés. Et c'est vrai qu'effectivement,
ils sont beaucoup plus chers.
Ah, ils sont un petit peu plus chers, mais la qualité a un prix, c'est ça le souci aussi.
Ils sont plus chers en France. Ils sont plus chers en France. En France, si vous voulez, on a une pression des distributeurs pour avoir des dates de vente longues, c'est-à-dire de pouvoir vendre le sandwich sur plusieurs jours de manière à en commander moins, etc. Ça donne plus de confort à l'industriel et aux distributeurs. En Angleterre, la tradition, c'est de faire des circuits courts, de vendre sous 3-4 jours. Donc forcément, les produits frais sont bien meilleurs.
Est-ce qu'on peut dire que les industriels français n'ont rien à faire de la santé de leurs clients?
Ben en fait, on peut dire que les entreprises sont pas immorales, mais sont amorales. C'est-à-dire qu'elles ne sont ni malfaisantes, ni bienfaisantes. Elles sont là pour faire de l'argent, c'est leur raison d'être. Une entreprise est là pour faire du profit. Donc, ils ne veulent pas volontairement empoisonner les consommateurs, mais ils sont là pour vendre des produits, et ils vont vendre des produits que les consommateurs achètent, c'est-à-dire des produits pas chers, et souvent des produits malsains.
Et le profit passe avant la qualité, souvent.
Le profit passe avant tout.
On le voit avec les propositions d'étiquetage avec un code couleur et des lettres simples comme pour les codes énergétiques, hein, classe A, classe B, classe C, classe D, qui me semblait un étiquetage sympa. La pression qu'ont fait les industriels pour pas que cet étiquetage passe, alors qu'il était quand même simple et simple pour le consommateur, c'est vrai que ça donne une petite idée quand même du peu de cas que font les industriels de la santé des gens par rapport à leur profit et à leur rentabilité, hein.
Mais l'exemple que vous donnez est absolument édifiant. C'est-à-dire qu'effectivement, on a en France promu ce qu'on appelait le Nutri-Score, qui était censé donner aux consommateurs une évaluation très très facile à comprendre. Les industriels ont fait de la résistance et ont proposé un code couleur concurrent qui vidait de son sens et qu'ils ont appelé Nutri-Couleur, qui avait été développé par, il y avait 5 ou 6 industriels de la malbouffe qui étaient à l'intérieur et qui promouvaient ce contre-feu, on va dire. Mais ce qui est drôle, c'est que le Parlement français, en mai 2018, donc tout récemment, a refusé de rendre obligatoire l'application du Nutri-Score sur les emballages. Donc ça reste encore aujourd'hui quelque chose d'optionnel qui est laissé à la libre appréciation des industriels.
Alors vous dites qu'il y a des outils qui nous permettent d'y voir clair si on n'a pas les bons emballages. Un qui s'appelle Open Food Facts.
Ouais, très 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 très, très bonne.
C'est bien. Alors moi par contre, je comprends pas pourquoi il y a pas une version française quand même. Hein.
Ah mais il y a une version française.
Non, c'est en français, mais Open Food Facts, vous voyez, bon.
Oui, mais en fait, je suis pour.
Alors, il y a une appli mobile qui est en français, mais qui s'appuie sur la base Open Food Facts.
Voilà, c'est ça.
En fait, si vous voulez, la base de données, elle se veut mondiale, si vous voulez. C'est-à-dire que les produits industriels faits par les multinationales sont vendus partout dans le monde.
Donc là, il y a 416 000 produits de référencés.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une base qui est collaborative. C'est-à-dire que les consommateurs eux-mêmes peuvent, quand il y a un produit qui n'est pas référencé dans la base, ils peuvent scanner le code barre, prendre en photo l'étiquetage, et il y a un scan après, je ne sais pas quel est le procédé technique, mais il y a un scan avec une reconnaissance de caractère qui va automatiquement mettre la liste des ingrédients, les glucides, les protéines, les matières grasses, le sucre, etc.
Exactement.
Et c'est vrai que ça prend quelques secondes, et c'est vrai que moi j'invite les auditeurs vraiment qui utilisent ces applications et cette base Open Food Facts d'effectivement d'enrichir cette base, parce qu'elle permet vraiment, quand on fait ses courses, en quelques secondes, d'avoir tout de suite un avis neutre sur...
Voilà, c'est l'équivalent du Nutri-Score. Ça vous donne de suite une évaluation du produit sans avoir à se casser la tête en lisant la liste d'ingrédients ou en essayant de déchiffrer le tableau nutritionnel.
Mais qu'est-ce qui manque comme information? C'est suffisant?
En fait, si vous voulez, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces applications, alors Open Food Facts, et ça sert de base aussi à des applications assez célèbres comme Yuka aussi ou Scanit par exemple, elles reprennent ces données. Et en fait, ces données ne font que reprendre les mentions obligatoires déjà marquées sur l'emballage. Et en fait, les consommateurs sont complètement perdus par ce trop plein d'informations confuses, et c'est à ça que servent ces applications. Ceci dit, les applications ne peuvent pas connaître les informations qui sont volontairement cachées par l'industriel. Alors là, par exemple, on peut parler des auxiliaires technologiques, qui sont des additifs qui sont non déclarables.
Oui,
par exemple,
tous les E, quelque chose, non, entre autres.
Les E quelque chose sont marqués dans les ingrédients. Ils sont considérés comme additifs. Ceux-là sont obligatoires. Par contre, je pense par exemple aux anti-mousse, aux agents de démoulage, aux anti-agglomérants.
C'est mon truc, ça, l'anti-mousse.
Vous avez 17 catégories d'auxiliaires technologiques. donc des produits chimiques qui sont ajoutés à la nourriture dans le but de faciliter le travail de l'industriel.
Un antimousse, par exemple, on le trouve dans quoi comme produit ?
L'antimousse, on va le trouver dans le sucre, par exemple, quand on fabrique du sucre, donc on va en trouver là, pour éviter que les cuves dans lesquelles on fabrique le sucre ne débordent. On va en trouver dans le jus d'orange, puisque ça va donner un produit...
À base de concentré, là ?
À base de concentré, exactement, oui. On va en trouver dans les huiles de friture, par exemple. Hein, comme le diméthicone, par exemple, qui sont des produits gentiment cancérigènes.
Alors là, on peut dire que c'est pour la sécurité des utilisateurs, pour pas que la friture déborde, non? C'est ça?
C'est pour éviter les projections, c'est pour rendre le travail plus simple,
Mais c'est mauvais pour la santé.
Mais on pourrait s'en passer, c'est mauvais pour la santé. Et en fait, le problème aussi, c'est que le consommateur n'est jamais informé de ce qu'il y a dedans. Par exemple, si vous prenez du décaféiné, on va décaféiner le café ou le thé avec du dichlorométhane.
Oui,
du dichlorométhane,
enfin,
qui est nocif.
Ce que j'appelle le chlore, mais enfin qui est... Oui, bon.
Voilà,
enfin,
c'est une molécule qui vous
solvant,
qui vous empoisonne.
Un solvant.
Voilà, avec un solvant organique.
Sous pression en plus. Hein. Solvant plus pression.
Sous pression et qui vous mène à une dépression ensuite.
En plus, oui.
Donc en fait, vous avez des par exemple, dans les huiles alimentaires, la plupart sont extraites à l'hexane. L'hexane qui est cancérigène également. Donc, dans tous les produits qui ont subi ce genre de traitement, vous allez retrouver des résidus de ce produit-là. Par contre, vous n'êtes jamais informé qu'il y a ces risques, qu'il y a ces résidus, et on ne vous refuse le choix de faire des choix éclairés sur votre alimentation.
Alors, on en parlait avant l'émission, justement, du décaféiné. Hein, pour les auditeurs qui ont mal à la tête quand ils boivent du café décaféiné, c'est parce qu'effectivement, il est décaféiné avec des solvants, mais on peut boire du bon décaféiné, il faut acheter du décaféiné à l'eau de source. Alors, ça coûte un petit peu plus cher, parce que le procédé de décaféination est plus technique.
La question, c'est de savoir comment on sait qu'il est décaféiné à l'eau.
Alors c'est écrit dessus, c'est écrit dessus. Alors à l'eau, je dis à l'eau de source, ça peut être à l'eau tout court,
à l'eau, voilà.
Décaféiné à l'eau, il y a des très bons produits, Malongo en fait, Terre de Café en fait, etc. Il y a pas mal de fabricants de torréfacteurs artisanaux ou industriels qui font des décaféinés à l'eau. Et là, effectivement, on a pas mal à la tête, et puis on n'a pas ce goût amer et acre. Voilà. Mais ça, effectivement, c'est évidemment les fabricants, les industriels ne le disent pas et n'en parlent pas. Ils n'expliquent pas comment il décaféine le café, sinon plus personne n'en boirait.
Mais votre exemple est intéressant, ça montre que, en fait, ma démarche, c'est de faire changer les choses, et il y a des alternatives. La question, c'est pas se passer de décaféiné, la question, c'est comment faire ce genre de produit avec des méthodes qui soient moins dangereuses et moins toxiques. Avec le décaféiné, on peut, avec des méthodes d'extraction à l'eau ou au CO2, par exemple.
Et pourquoi est-ce que vous écrivez un nouveau livre, alors que maintenant, avec un code barre, on a toute la...
Bah justement, parce qu'avec un code barre, on n'a pas toute l'information. Notamment, les auxiliaires technologiques ne sont pas déclarables.
Alors, qu'est-ce qu'un auxiliaire technologique, précisément?
C'est un additif.
Qui n'est pas là pour le goût, pour la conservation,
qui pour
mais qui est là pour
aider l'industriel.
Pour un motif technique.
Voilà. Par exemple, pour démouler une tablette de chocolat ou pour démouler un gâteau. Voilà. Pour pas que le produit colle au moule, justement, on met un anti-adhésif. Voilà. Ça, c'est un auxiliaire technologique. Ce produit-là, il y en a qui sont parfaitement toxiques. On sait qu'ils sont toxiques. Il y en a par exemple qui contiennent des huiles minérales. Il y avait même une personne au niveau de la Commission européenne qui a dit on est affolé par le niveau des huiles minérales dans les céréales pour
Parce que ça se mesure en fait.
Oui, on peut il suffit d'analyser. Donc on retrouve des huiles minérales parce qu'on parle des huiles minérales dans les emballages, mais les huiles minérales, on les retrouve aussi dans certains auxiliaires technologiques comme les agents de démoulage ou les agents d'enrobage.
Oui, on les trouve y compris dans des produits vendus comme étant healthy. Hein, il y a des marques, il y a certaines marques effectivement qui jouent beaucoup sur le bio.
Qui jouent beaucoup.
On les trouve dans tous les produits. Ce qui est choquant, c'est que les autorités autorisent les industriels d'utiliser des additifs qu'on ne déclare pas. Ça, c'est choquant.
Vous êtes peut-être en train de petit déjeuner ou vous apprêtez à faire vos courses. Notre invité Christophe Brusset va vous diminuer votre liste de courses. Hein, moi, je vous le dis. Ça s'appelle « Et maintenant, on mange quoi ?» Un ancien industriel de l'agroalimentaire vous aide à faire le bon choix. C'est chez Flammarion. Et Christophe Brusset, vous êtes notre invité jusqu'à 10h.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
À votre santé, on disait souvent que on est ce qu'on mange. Christophe Brusset, notre invité, vous publiez maintenant On mange quoi ? Un ancien industriel de l'agroalimentaire vous aide à faire le bon choix. C'est chez Flammarion. Vous-même, vous avez été de l'autre côté de la barre, puisque vous avez acheté, vous avez été acheteur, hein, vous avez acheté de l'huile, notamment, on parlait d'huile tout à l'heure, du miel.
Du miel, des épices, des produits surgelés, des fruits de mer, enfin bon, beaucoup de produits effectivement.
Prenez un exemple dans votre liste, par exemple l'exemple de salière. Ça vous voilà. Pourquoi est-ce que c'est important de regarder le nombre de trous qu'il y a dans votre salière?
Bah, effectivement, à une époque, on parlait beaucoup de la réduction de sel dans l'alimentation. Voilà, le sel,
on mange trop salé.
On mange trop salé, c'est mauvais pour la tension artérielle, etc. Et donc, on savait très bien, nous, industriels, qu'il fallait réduire le taux de sel dans les produits. Donc, on le faisait. Et on avait dans nos produits donc une gamme de salières, donc des salières jetables qu'on trouve dans les restaurants, type cafétéria et autres. Et justement, moi, on m'avait demandé, non pas de réduire le taux de sel, mais de trouver toutes les astuces possibles pour que le sel s'écoule plus vite des salières, pour que les consommateurs en consomment plus et qu'ils rachètent plus de salières. Donc, on a joué au départ sur les trous, donc on a la partie supérieure de la salière, ce qu'on appelle le tamis. Donc, on avait au départ rajouté des trous. Ensuite, on a agrandi les trous et au final, on a trouvé du sel extra super fin pour que le sel s'écoule plus vite à travers ces mêmes trous.
Et puis il y a les salières aussi avec le gros sel à l'intérieur, les moulins
oui,
là.
On faisait tout ça.
Les moulins à sel qui sont pas très bien réglés de manière à laisser passer du gros sel comme ça va plus vite.
Le but du jeu c'est que le consommateur consomme. Voilà. Donc
comme le geste est le même,
exactement,
finalement, et qu'il va pas en rajouter, eh bien on le fait à l'insu de son plein gré.
Exactement. Vous allez donner deux petites secousses pour saler votre steak. Ce seront toujours le même geste, la même durée. Et plus le sel s'écoulera vite pendant ce laps de temps, et ben plus on vendra de salière.
Et ça, on peut scanner la salière avec une application Open Food Facts, et ça nous le dit pas, malheureusement.
Exactement, ouais. Ce genre d'astuce n'est jamais décrite. Mais pareil, quand dans un aliment, vous pouvez pas connaître le taux de pesticides, le taux de métaux lourds, le taux de polluants, le taux de MOH, tous ces éléments-là ne sont pas déclarés. Il y a aucun moyen de les connaître.
Oui, alors les industriels déclarent quand ils ont un produit sans pesticides, mais quand il y en a, évidemment, là, il y a silence radio. Quoi,
non, hein. Parce que les analyses sont pas données, vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Pareil, quand on faisait, nous, des produits quand on utilisait des produits épuisés, par exemple, des produits dont on avait extrait l'arôme avec des solvants organiques, et qu'on les mélangeait aux produits nobles, comme le poivre, le papier, les quelques épices ou autres, jamais on l'indiquait. Donc, quand vous achetiez un poivre en moulu qui contenait du poivre très épuisé à l'hexane, vous n'avez aucun moyen de savoir que ce produit-là était un sous-produit.
Alors, pour les auditeurs, qu'est-ce qu'est un poivre épuisé à l'hexane?
Bon, en fait, ce sont...
Quand vous dites un poivre épuisé, pour moi, c'est que vous l'avez plus en stock. Donc,
effectivement, quand on parle de produits épuisés, on trouve aussi beaucoup de vanille, de gousses de vanille épuisées. Ça, si vous prenez des produits, des bacs de glace, de crème glacée à la vanille, vous allez trouver ça souvent. Ce sont des produits où on a extrait l'arôme avec un solvant organique, typiquement l'hexane. Donc on a enlevé l'arôme, et ce qui reste, le déchet, c'est comme du marc de café, si vous voulez. Ce déchet-là, on l'utilise quand même comme ingrédient.
D'accord, oui.
Donc c'est un déchet qui se sert d'ingrédient.
Vous en tirez une théorie, il faut toujours écouter les petits messieurs qui n'ont l'air de rien avec des costumes et les manches trop longues.
Alors ça, effectivement, c'est une anecdote que je raconte. C'était un représentant de la délégation du Vietnam il y a pas mal d'années, qui avait indiqué que son pays allait se mettre à produire du poivre massivement en utilisant des nouvelles techniques, qui étaient les techniques de l'agro-industrie classique, de l'agro-chimie.
Déjà. Les industriels possèdent ce qu'on appelle le savoir-faire et la publicité, le faire savoir. Alors, quels sont les messages complètement faux que les industriels arrivent à nous faire passer pour des vraies vérités? Exemple.
Alors, les messages complètement...
Il y en a dans votre livre, je ne le savais pas, c'est le canneberge.
Ah oui, écoutez, c'est vrai qu'on aime bien vendre des produits avec un petit plus. Donc si le consommateur est persuadé que, par exemple, la canneberge aide au transit,
pour
combattre la cystite ou autre au niveau des...
C'est bon pour les infections urinaires.
Voilà, exactement. En fait, le problème, c'est que ce genre d'allégation santé n'a jamais pu être prouvé. Des grosses compagnies comme Ocean Spray, par exemple, qui est le leader mondial de la canneberge, a financé des études pour essayer de démontrer que la canneberge avait un effet sur les problèmes urinaires. Et il n'a jamais réussi à le démontrer, ce qui fait que l'Europe n'a jamais autorisé ce genre de déclaration.
Pourtant, sauf que tout le monde vous dit que c'est bon.
Ah oui, parce qu'on voit des articles dans la presse. Alors l'Europe l'a interdit, mais on voit des articles dans la presse, on voit tout un tas de... on entend des conférences, des intervenants à la radio, à la télévision, qui disent, qui même des médecins parfois, qui préconisent le cranberry ou la canneberge pour les problèmes urinaires.
Mais à une époque, on vous disait que la cigarette était bonne pour la santé, que le glyphosate était excellent.
C'est très bon pour la voix, si vous faites de la radio.
Voilà, on vous disait qu'on pouvait boire un verre de glyphosate sans qu'il y ait aucune conséquence, et en fait non. Quand les études scientifiques sortent, on se rend compte que le glyphosate est dangereux.
Bah ça, le glyphosate, c'est un problème un peu schizophrène, parce qu'on explique que le Roundup c'est interdit parce que c'est pas bon pour les particuliers, mais qu'on peut en mettre. On a fait un moratoire pour continuer à utiliser le Roundup, etc. Parce que c'est bon pour les industriels, quoi.
C'est exactement ça. Il y a toujours le pot de fer contre le pot de terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une collusion évidente entre les politiques et l'argent, et le pouvoir de l'argent, que ce soit les banquiers, que ce soit les industriels ou les grandes distributions. On l'a encore vu avec la loi alimentation qui vient de sortir. En gros, vous êtes riche et puissant, on vous écoute, on vous soutient. Vous êtes un consommateur lambda, un particulier qui utilise glyphosate, vous n'avez absolument pas le droit de rien
faire. Le particulier n'a pas les moyens de se payer des lobbyistes avec des valises de billets pour inviter les politiques au resto.
On peut dire pour corrompre les politiques, oui.
Voire pire.
Voilà, exactement. Exactement.
Mais c'est intéressant parce que alors les gens ne savent pas toujours comment ça fonctionne. Hein. Nous, on a l'impression que d'un autre côté, les hommes politiques, ils sont là pour que puisqu'ils nous représentent, qu'on aille bien, pour que ça soit bien pour notre santé. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'ils soient sensibles à des lobbyistes?
Bon, en fait, il faut savoir que les lobbyistes, en fait, sont des gens qui disposent d'énormément de moyens. Les multinationales ont des moyens. Nestlé, par exemple, c'est 93 milliards de chiffres d'affaires. Ce sont des chiffres absolument gigantesques. Ces entreprises-là ont des moyens quasi illimités. Avec cet argent-là, ils peuvent se payer des lobbyistes qui vont eux-mêmes influencer les politiques.
Mais comment ils les influencent?
Mais il y a énormément de moyens de les influencer.
Alors, on entend souvent parler de valises de billets. Alors après, bon, moi, je n'affirme rien, mais bon, à force d'en entendre parler, c'est peut-être pas forcément une légende.
Mais par exemple, il y a énormément de moyens. Si par exemple, je veux avoir une influence sur une personne, je vais financer ses recherches. Si c'est un chercheur, si c'est un ancien politique, par exemple, je vais l'inviter à faire une conférence. Monsieur, venez chez moi, vous faites une conférence, je vous file 100 000 euros. Voilà comment ça se passe concrètement. Alors, c'est pas de la corruption. On le paye pour une conférence.
J'organise un concours, vous allez être président du jury, on va vous défrayer, voilà. Des choses
ou
comme
si,
ça.
Si vous perdez votre job à la Commission européenne, eh ben c'est pas grave, vous serez président du groupe de pression, comme ça s'est passé avec l'EFSA il y a quelques années.
Vous appelez ça une collusion?
C'est une collusion. Tout ça, c'est le même monde. Quand on voit que les principaux commissaires européens font l'aller-retour entre Goldman Sachs, en fait, entre les banques et la Commission européenne. Il y a une collusion entre un certain nombre d'entreprises, des groupes d'intérêts et les politiciens.
Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc finalement, si on n'en prend pas beaucoup, il va rien nous arriver.
Alors c'est ce qu'on croyait par le passé. Et c'est toujours la doctrine qui est appliquée au niveau de la Commission européenne et pour la définition des minimums, des seuils de dangerosité.
Seulement, alors, vous avez ce qu'on appelle une LMR.
La LMR, voilà, pour les pesticides, c'est ce qu'on appelle la limite
maximale de résidus. Bon,
oui, voilà. Mais c'est par produit. Mais comme on consomme dans une journée 8, 10, 15, 20 de ces produits, forcément, la limite, on la dépasse. Hein.
Effectivement.
Je parle sous votre contrôle.
Tout à fait, vous avez raison. Mais c'est vrai qu'on parle de LMR pour les pesticides, mais on parle aussi de DJA, la dose journalière admissible, pour les additifs. Et pour les oscillateurs technologiques, on n'a rien de tout cela. Donc, en fait, on se retrouve avec des tas de molécules chimiques qu'on ingère, qui ont effectivement les effets cocktails, qu'on ingère tous les jours tout au long de notre vie, qui nous empoisonnent insidieusement, qui contribuent à l'augmentation des cancers et des différentes maladies. Et en fait, on n'est pas du tout protégé. Et cette idéologie qui dit que la dose fait le poison est complètement fausse, puisqu'elle a été battue en brèche au moins sur deux types de molécules, les perturbateurs endocriniens et les molécules cancérigènes. Où on sait que les molécules cancérigènes sont dangereuses, quel que soit le seuil. Une molécule cancérigène est dangereuse.
Les perturbateurs endocriniens qui sont le nouveau cancer, quoi. Hein.
Et les perturbateurs endocriniens qui, eux, c'est encore pire, puisque les perturbateurs endocriniens peuvent être plus dangereux à très faible dose qu'à dose moyenne ou forte.
Et il y en a beaucoup, et un peu partout.
Exactement. Tout à fait.
Alors, vous prenez par exemple dans votre livre l'aluminium additif alimentaire.
Exact. Je parle de l'aluminium parce que c'est un cas assez emblématique, puisqu'on sait depuis les années 70 que c'est un produit dangereux. On l'a découvert à l'époque où on faisait des transfusions avec des produits qui contenaient de l'aluminium. Et en fait, on s'est rendu compte que les transfusés étaient empoisonnés et on a fait le lien avec l'aluminium. Donc on sait depuis les années 70, 1976, si je ne me trompe pas, que l'aluminium est dangereux pour la santé. Et on sait depuis, de nouvelles études ont démontré, qu'il y avait un lien entre l'aluminium et la maladie de Parkinson. Donc on sait que l'aluminium est dangereux. Pourtant, aujourd'hui, vous avez l'aluminium qui est autorisé comme colorant alimentaire, par exemple. L'aluminium pur, le métal, E173, de mémoire. Donc, on peut consommer l'aluminium sous forme de métal pur, on peut consommer l'aluminium sous forme de sulfate, de silicate, de phosphate. Donc en fait, vous avez de l'aluminium dont énormément de produits alimentaires aujourd'hui.
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très familier, tous les additifs avec le E quelque chose, etc., oui. Où on nous met émulsifiant, mais derrière l'émulsifiant, il y a un produit chimique qui peut être mauvais pour la santé. C'est
exactement.
Vrai que d'où l'intérêt de ces fameuses applications qui permettent de scanner, de...
Exactement, mais ces applications vous reprennent des informations qui sont
communiquées.
Il y a beaucoup de seuils, par exemple, qui s'avère en fait avoir été promu par l'industrie. C'est-à-dire que c'est l'industrie qui définit les seuils quelque part. Parce que tous les dossiers techniques et scientifiques sont donnés par les fabricants. On l'a vu avec l'affaire du Monsanto Paper. Les évaluations, les comités d'évaluation sont composés de scientifiques payés par l'industrie. Donc en fait, l'industrie contrôle tout le système. Mmh. Et vous arrivez au départ avec des seuils qui ne sont pas évalués de manière objective dans l'intérêt du consommateur.
L'industrie agroalimentaire, on l'a vu, se réinvente très, très vite. Hein. On l'a vu pour le jambon, par exemple, avec les fameux sels nitrités. Aujourd'hui, quand vous regardez dans les linéaires, vous avez énormément de packages avec 100 sels nitrités. Donc, on voit, ça a été 6 mois après, à peu près.
Oui, mais on met de la cochenille à la place, parce que comme ils n'ont plus de nitrité, ils sont pas roses, et comme c'est le rose qui fait vendre, on met de la cochenille. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, Philippe, un peu, hein, quand même. Hein,
voilà. Effectivement, il y a des... Quand il y a un problème qui est identifié, que les consommateurs commencent à râler ou à se dire ce produit-là on n'en veut pas, alors à ce moment-là, seulement après, vous voyez, ça démarre toujours du consommateur, les distributeurs ou les industriels et enfin les politiques se décident à réagir. Et effectivement, il y a des solutions qui existent, mais qui sont souvent plus contraignantes ou plus chères. Et on essaie de feinter, de trouver effectivement des colorants cochenille ou de trouver des succédanés. Mais il y a quand même des solutions sans nitrite qui peuvent exister.
C'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut expliquer.
Il y a des solutions.
Le mieux manger, d'abord, un, c'est possible, et deux, c'est pas forcément plus cher.
Non, puis la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une éducation à faire du consommateur pour dire le bon jambon, il n'est pas forcément rose. C'est pas parce qu'il est rose qu'il est bon. Si vous prenez celui qui est considéré comme le meilleur jambon, peut-être du monde, on va dire, le prince de Paris, il est blanc-gris, hein, il est blanc cassé. Oui, il y a zéro nitrite dedans. Voilà, il est juste saumuré.
On a été éduqué pendant des années à acheter avec les yeux, donc il faut que le produit soit beau, qu'il soit joli, qu'il soit pétant, qu'il soit parfait. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Pour avoir un produit parfait, il faut des additifs, il faut des pesticides, il faut... Voilà. Et on a un produit qui est absolument artificiel et absolument dangereux, quoi. Un produit naturel, il n'est pas parfait, il peut avoir une couleur qui n'est pas forcément extra pétante, mais on a un produit qui est sain.
Mais on le voit parce que l'industrie et notamment les chaînes d'hypermarchés sont en train de se réinventer. Maintenant, c'est beaucoup de bio, en tout cas.
Bah effectivement, parce que quand il y a une demande solvable qui est là, bah en fait ils vont essayer de répondre, mais il y a aucune vraie motivation, en fait ils savent que les consommateurs veulent du bio, donc ils leur fournissent du bio. Donc ouais. Pour fournir du bio, ils vont acheter du bio en Chine,
mais
par exemple.
Mais quel bio, parce que attention, j'en avais parlé dans une précédente émission, mais je vais revenir dessus parce que tous les auditeurs ne le savent pas forcément, et c'est comme ça, quelque chose qui me semble très important, c'est que déjà il y a plusieurs logos bio, ça je le répète tout le temps, il y a le logo bio franco-français, donc AB pour agriculture biologique, qui là correspond à un cahier des charges qui est à mon sens, pour l'avoir lu et relu, qui est à mon sens assez sérieux, assez contraignant. Maintenant, il y a le logo avec le bio avec la petite feuille et les petites étoiles, qui est le logo bio européen. Donc, ça peut être du bio roumain, ça peut être du bio portugais, ça peut être du bio polonais. Et là, le problème, c'est que les cahiers des charges bio de ces pays-là
sont pas
du tout les mêmes, et on nous vend sous un logo bio européen des produits qui peuvent être beaucoup moins bons et beaucoup plus nocifs que des produits qui ne sont pas bio. Et c'est ça qui est assez hallucinant, c'est que il y a pas d'uniformisation. Alors l'uniformisation, je crois qu'elle a été votée en novembre 2017, mais avec un moratoire de 3 ans pour permettre aux pays les plus faibles économiquement de se mettre à niveau, sauf que le nouveau cahier des charges, il a été fait au moins 10 ans sur la base des cahiers des charges ce qui veut dire que le futur logo bio universel européen, le futur cahier des charges, il va être moins drastique que le logo AB bio aujourd'hui. Donc bientôt il faudra plutôt acheter du Déméter ou des labels autres, hein.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie que les pays hors Europe, dans un premier temps, se rapprochent du standard européen, qui est pas effectivement encore le meilleur standard, mais c'est un mieux par rapport à.
Ouais, mais on part de loin là.
Voilà,
aussi,
on part de loin. Mais il y a aussi une chose qui peut être un petit peu choquante quelque part. C'est est-ce qu'il est normal d'importer, par exemple, de la farine de sarrasin chinoise? Quand on considère qu'il faut peut-être 1 kilo de pétrole pour amener 1 kilo de farine de Chine. Donc à un moment, on en arrive à une aberration écologique. C'est pas parce que c'est bio qu'il faut consommer les yeux fermés. Il faut aussi voir d'où vient le produit. Il faut consommer local avant tout, quoi.
On verra dans un instant à quelles normes se fier, puisque Christophe Brousset est notre invité jusqu'à 10h.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et maintenant, on mange quoi? C'est le titre du livre de Christophe Brousset, qui est notre invité aujourd'hui, un ancien industriel, ça c'est vous, de l'agroalimentaire, nous aide à faire le bon choix, et c'est aux éditions Flammarion. Maintenant, vous êtes passé de l'autre côté pour défendre les consommateurs. On parlait de normes tout à l'heure avant la pause, alors à quelles normes se fier? Par exemple, si on voit label rouge.
Bah écoutez, effectivement, il y a beaucoup de référentiels qualité qui existent. Donc vous avez effectivement des labels rouges qui sont des normes officielles. Alors ça désigne un standard supérieur de qualité, donc ça dépend des produits, etc. C'est sûr que c'est mieux qu'un produit standard, on va dire. Après vous avez effectivement les labels bio, vous avez d'autres labels type bleu blanc. Enfin vous avez tout un tas de labels, avec certains qui sont très sérieux, d'autres qui ne le sont pas.
D'accord.
Voilà, mais il y a les AOP par exemple. Alors les AOP françaises et même européennes en général, les AOP italiennes, espagnoles sont quand même assez sérieuses. On parlait de labels bio de pays européens un peu exotiques qui n'étaient pas très contraignants. Il y a des produits. Moi, j'ai plus confiance dans un produit AOP italien, espagnol ou français que dans un produit bio roumain ou polonais ou chinois. Parce que les cahiers des charges des AOP là, les cahiers des charges sont conçus au niveau national et là par des professionnels de la filière qui sont très attachés à la qualité. Et c'est vrai que ça peut être une alternative aussi au bio quand on ne sait pas trop quel genre de bio choisir, parce qu'il y a du bio et du moins bio, comme on dit.
Oui, effectivement, ces appellations servent surtout à définir une qualité supérieure et puis à faire le lien aussi avec une tradition et puis un terroir.
Voilà, et une méthode de fabrication.
Même, alors effectivement, on est sur des choses qui sont assez différentes malgré tout, parce qu'on peut très bien être AOP ou label rouge sans pour autant être bio, donc la démarche est légèrement différente.
Mais vous dites AOP, finalement, on pourrait s'en passer.
Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'AOP, mais il y a aussi la STG, vous savez, la spécialité traditionnelle garantie. En fait, il y a des logos qui...
Spécialité traditionnelle garantie.
Oui, en France, il y en a deux. Je crois qu'il y a la moule de Bouchot, et puis voilà, en Espagne, il y en a deux aussi. En Italie, il y en a une. Enfin, bref, il y a des labels qui se surajoutent et qui apportent rien si ce n'est de la confusion.
Oui, alors le grand écart aussi au niveau européen, c'est que d'un côté on a le camembert AOP qui doit être fait absolument au lait cru, et puis Bruxelles par ailleurs qui veut interdire les fromages au lait cru à terme. Donc là c'est vrai que on ne sait plus sur quel pied danser, quoi.
Oui, puis, enfin le camembert c'est compliqué, puisque enfin là où je vis, moi j'achète du camembert australien, donc vous voyez le camembert. Le problème c'est que c'est pas un nom et une appellation protégée n'importe qui.
Mais ça devrait l'être, hein. C'est un village à la base camembert. Hein,
le problème c'est qu'on devrait, comme on fait les Grecs avec la feta, on devrait se bagarrer pour notre terroir. Le camembert, c'est français, c'est normand, voilà.
C'est normand et c'est au lait cru, voilà.
Exactement, voilà.
Et on n'a jamais eu de mort à cause du camembert, donc l'interdiction du fromage au lait cru, bon, c'est...
Je vais faire la moue. Vous connaissez des morts
du camembert? Non, mais enfin non, bon. Si y a un risque,
camembert, ça n'existe pas.
S'il y a un risque, je préfère l'assumer. Je préfère mourir d'un empoisonnement au camembert que mourir d'être étouffé par un camembert industriel, par exemple.
Qui est à blâmer finalement? Est-ce que c'est la grande distribution ou c'est l'industrie agroalimentaire?
À mon sens, ni l'un ni l'autre, parce que que ce soit la grande distribution ou l'industrie agroalimentaire, ce sont des entreprises privées. Elles sont là pour faire de l'argent, donc elles font un business.
Donc ça, il faut le comprendre. Elles sont pas là pour.
Elles sont amorales. Bon. Voilà. Elles ne font ni le bien ni le mal. Elles font du business. Voilà. Ceux qui sont censés défendre les consommateurs, et c'est là, à mon sens, qu'est le problème, ce sont nos représentants politiques. C'est un problème politique. Les pouvoirs publics, nos élus, en fait.
Et ils ne le font pas.
Mais regardez la loi alimentation qui vient de passer. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, voilà, en gros, la principale mesure, c'est sur le seuil de revente à perte va passer à 10% maintenant. Point. Ça veut dire que les distributeurs vont se mettre dans la poche 10% de marge en plus, sans avoir rien à faire, sans avoir aucune obligation de reverser ces 10% à qui que ce soit. En quoi cette mesure-là va aider les agriculteurs français? Si les distributeurs...
Ah, c'est comme les quotas laitiers, etc. Il y a plein d'exemples.
Si Intermarché vend du Coca-Cola en faisant une marge à 10%, en quoi ça va aider les cultivateurs français?
Mais la grande distribution communique beaucoup sur le fait que ses marges sont faibles. Pourquoi est-ce que c'est une finalement on parle pas de la bonne chose?
Je pense que c'est quand même totalement faux, puisque c'est la grande distrib qui fixe les prix, donc
exactement,
ils sont pas masochistes, hein.
Vous avez tout dit, c'est complètement faux. Aujourd'hui, sachez que le premier annonceur en France, celui qui dépense le plus de budget en publicité avec quasiment 500 millions d'euros, c'est Lidl. C'est Lidl, le distributeur.
Le moins cher.
Soi-disant le moins cher. Donc, expliquez-moi comment il peut trouver 500 millions d'euros par an en France pour faire de la publicité, soi-disant sur des produits qui vendent dans des entrepôts avec des employés sous-payés. Donc, il y a un moment, il faut être cohérent. C'est que, La distribution vous dit on fait pas de marge, c'est complètement faux. La distribution.
Enfin, elle dit que les marges sont très faibles.
C'est absolument faux. L'observatoire des marges vous dit que les marges sur la grande distribution sont élevées. L'étude de l'UFC Que choisir sur les produits bio disent que les distributeurs se gavent sur les produits bio. Ils se gavent, ils ont des marges qui sont à plus de chiffres.
Bien sûr.
Donc la grande distribution vit largement, très largement.
Oui, et les marges, et d'ailleurs le taux de marge est plus important sur les produits bio que sur les produits industriels.
Exactement, hein. Parce qu'ils savent que les consommateurs ont intégré que les produits bio sont plus chers, donc ils en profitent.
Alors, moi j'ai une petite question parce qu'on parlait tout à l'heure de l'application, enfin d'Open Food Facts, etc. Mm-hmm. Avec des applications qui utilisaient cette base. En septembre, il y a les magasins U qui ont lancé une application. Il y a quoi dedans qui s'appuie sur justement la base Open Food Facts. Alors ils font quoi? Ils se tirent une balle dans le pied parce qu'en fait quelque part ils incitent les consommateurs à ne pas acheter certains des produits qui sont dans leur rayon. C'est quoi? C'est un coup de com? C'est comment vous ou alors est-ce que c'est une prise de conscience pour aider vraiment les consommateurs quand vous voyez la chose?
Je connaissais pas honnêtement je connaissais pas cette application.
Ils ont fait une grosse campagne de relations presse et de com.
Je pense que c'est un coup marketing, mais de toute façon en ce qui les concerne en tant que distributeur, enfin à la rigueur, si vous n'achetez plus la marque X, vous allez peut-être acheter la marque Y, donc alors à leur niveau ça va pas du tout jouer sur leur vente quelque part. C'est une belle campagne de pub.
Ils jouent la transparence, voilà, d'une certaine façon.
Ils jouent la transparence, sachant que de toute façon, vous allez venir chez eux et puis faire des choix alternatifs. Mmh. Mais de toute façon, vous allez acheter chez eux un produit, quel qu'il soit.
Ouais, la rigueur, sauf que l'application elle marche aussi chez Leclerc, chez Carrefour, etc. Leur application.
Ouais, mais dans ce cas-là, les applications, moi j'en connais au moins trois. Je connais Open Food Facts, je connais Scanit et je connais Yuka. Donc je vois pas.
Alors pour ceux qui prennent émission en route, effectivement, ce sont des applications qui vous permettent de lire les codes-barres qui sont sur les produits et qui vous donnent l'information.
Avec votre téléphone mobile.
Et en fait, toutes ces applications sont basées sur la même base de données qui est la base de données Open Food Facts.
Oui, qui est la même. Oui.
Donc en fait, vous avez quatre fois la même application. Pourquoi Intermarché
Open Data.
Voilà. Pourquoi Intermarché développerait une application identique aux applications qui existent déjà.
Donc c'est forcément de la com. Ouais, vous avez répondu à ma question.
À la rigueur, ils ont qu'à dire, utilisez Yuka chez nous, utilisez Open Food Facts chez nous et. Enfin, plutôt que dire on a des applications, il devrait dire plutôt, enfin nous, voilà les mesures qu'on prend pour améliorer les produits.
Alors votre livre, il y a une partie guide aussi pour nous aider à faire nos courses. Par exemple, on rentre dans la pleine période du raisin. Qu'est-ce que vous conseillez sur le raisin?
Bah écoutez, sur le raisin, c'est toujours pareil. Hein, sur ce genre de produits, il vaut mieux consommer des produits bio parce qu'il y aura moins de traitements pesticides. Mmh. Obligatoirement, c'est la base du bio. Ensuite, je fais sûrement allusion au fait que les raisins sont plus traités au glyphosate que plus traités aux pesticides. Fraises, par exemple.
Par exemple, s'il y a un produit, si j'ai bien compris votre livre, sur lequel il faut investir dans le bio, c'est vraiment le raisin.
Effectivement, parce qu'il y a eu une étude qui a été faite par Génération Future sur les pesticides. Donc, ils ont comparé les différents produits, légumes et ils ont fait en fait le classement entre les légumes et les fruits des plus pollués aux moins pollués avec ils ont analysé les taux de résidus de pesticides. Et effectivement, dans les fruits, ils se sont rendus compte que le raisin était effectivement très pollué.
Ouais, et contrairement aux apparences, la peau du raisin, elle est très poreuse. Elle a l'air très imperméable comme ça, mais la peau du raisin est très poreuse. Et du coup, dès qu'on traite avec des pesticides, du glyphosate ou autre, le raisin devient une grenade.
Mais c'est extrêmement
une grenade de pesticides.
En fait, ce qu'il faut dire au niveau des pesticides, c'est que les gens aujourd'hui croient que tout est sous contrôle, que les produits sont sains en supermarché. Il faut savoir que au moins 6% des pains, déjà, quasiment tous les produits, à 80%, contiennent des pesticides. Il faut savoir que 6% des produits contiennent des pesticides au-dessus des normes. C'est-à-dire que 6% des produits en magasin aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, c'est les contrôles des fraudes.
Donc dans des proportions dangereuses pour la santé.
Ça fait 94% qui ne sont pas au-dessus des normes.
Ouais, mais ça veut dire que un jour toutes les deux semaines, vous consommez que des produits qui sont dangereux, qui sont reconnus comme dangereux au-dessus des normes.
Reconnus, on le sait. Voilà. Qui sont toujours en vente.
Et ce qui est le plus drôle, moi, ce qui m'amuse, c'est qu'ils sont toujours en vente, mais depuis des années. Moi, ça fait 20 ans que je constate que 6% des produits sont non conformes. Ça fait 20 ans que ça dure. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'il y a même quasiment 2% des produits origine France qui contiennent des pesticides interdits en France. C'est ça aussi, c'est drôle, ça devrait questionner. 2%, ça choque personne.
On a des noms ou pas?
Alors s'ils sont interdits en France, qu'est-ce qu'ils font dans les rayons? C'est ça les questions.
En fait c'est assez facile, c'est que vous pouvez trouver. En fait ce qui se passe c'est que les pesticides interdits, ils sont interdits parce qu'ils sont trop efficaces et sont trop dangereux. Mais par contre, pour un producteur, ce sont des produits en or, puisqu'ils sont extrêmement efficaces. Donc les producteurs font tout ce qu'ils peuvent pour se les procurer.
Donc ils les importent illégalement sous le manteau.
Ils les importent illégalement sous le manteau, ils vont les chercher en Espagne. Moi je connais des producteurs dans le sud de la France, dans la vallée du Rhône, qui font 3 heures de voiture et qui vont acheter à la frontière espagnole des pesticides interdits.
Si Bruxelles veille au grain, à ce moment-là, pourquoi on trouve ces produits en Espagne? C'est ça la question, puisque l'Espagne est dans la communauté européenne.
Encore, oui.
Mais la question aussi, c'est que quand les fraudes, la DGCCRF fait des contrôles en France, qui trouvent que 6% des produits sont hors normes et qui trouvent que 2% des produits contiennent des pesticides interdits en France. Quelles sont les suites? Qui est condamné? Qui est poursuivi? Est-ce que les supermarchés sont condamnés? Non. Est-ce que les producteurs sont poursuivis? Non. Alors qu'on a la traçabilité totale sur ces produits-là. On pourrait très bien remonter. Il suffirait de 2 ou 3 condamnations pour que tout s'arrête. Il n'y a aucune condamnation, aucune poursuite, jamais.
Bon, un sujet qui fâche, est-ce qu'on peut encore manger du kebab en France, Christophe Brousset?
Ah ben on peut en manger, mais après c'est à vos risques et périls.
Non, sérieux. Non, là on va se fâcher avec tous les...
En fait,
racontez cette histoire quand même.
Alors, c'est une histoire assez édifiante. C'est-à-dire qu'il est interdit, il était interdit d'utiliser dans la viande des additifs type phosphate, polyphosphate. Et en gros, il était interdit de gonfler la viande à l'eau. En fait, ça sert à ça, les phosphates, polyphosphates. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que les fabricants de kebab, ceux qui faisaient les broches de kebab surgelées, faisaient des broches kebab premier prix avec une espèce de pâté de viande qui ne pouvait pas tenir sur la broche sans phosphate.
Oui, oui, voilà. Bah, donc, et en plus ça, les phosphates ça rendait la viande plus moelleuse.
Voilà, aussi ça la rend. On en trouve aussi beaucoup dans les charcuteries, dans le jambon premier prix, etc. Donc effectivement, mais c'était interdit. Donc il y a eu un problème. Donc il y a eu un rapport à la Commission européenne qui dit voilà, les phosphates sont dangereux, cancérigènes ou voilà. Donc c'est interdit. Donc il était prévu de faire une loi spécifique pour interdire les phosphates dans les kebabs. Ce qui s'est passé, c'est que les fabricants de kebabs industriels, notamment en Allemagne, ont fait pression sur les élus allemands, qui ont fait pression sur la Commission européenne, et résultat d'une interdiction qui était quasiment certaine, on s'est retrouvé à une nouvelle loi qui spécifiquement autorisait les phosphates dans les kebabs. Donc aujourd'hui, vous pouvez consommer des kebabs avec bourré de phosphate. Alors que pour faire un kebab sans phosphate, c'est parfaitement possible. Par contre, il faut utiliser de la bonne viande.
Ah, il faut utiliser la bonne viande. D'ailleurs, on avait donné récemment des adresses aux auditeurs.
Le bon kebab.
Le meilleur kebab de Paris.
Ah, bah, ça m'intéresse.
Voilà. Ben, on va vous donner l'adresse. Hors antenne. On peut le rappeler. Pour les auditeurs, ça s'appelle La Voie Lactée. C'est rue des Écoles, hein.
Voilà. Christophe Brousset, votre nouveau livre vient de sortir. Donc, et maintenant, on mange quoi? Un ancien industriel de l'agroalimentaire vous aide à faire le bon choix. C'est chez Flammarion, avec une jolie petite nappe à carreaux rouges et blancs, hein, qui évoque le bistrot, la cuisine d'antan, en fait, le terroir.
Exactement.
Hein. Et vous mangez quoi, vous, finalement?
Bah écoutez, je mange pas mal de produits bio. J'essaie de manger un maximum de produits français, puisque bon, j'ai quand même relativement plus confiance dans mes produits que dans les produits chinois, on va dire. Donc voilà, par contre, j'y consacre beaucoup de temps, j'y consacre beaucoup d'argent, puisque là où je vis, c'est des produits relativement chers.
Alors ça commence par une anecdote, hein, justement, vous vivez à Singapour aujourd'hui.
Exactement.
Vous-même, qui est quand même surinformé, vous achetez du beurre. Enfin... Vous achetez ce que vous croyez être du beurre.
Exactement, mais c'est un événement qui m'a beaucoup marqué, parce que ça m'a beaucoup vexé personnellement, et puis c'est là où vraiment je me suis rendu compte que si moi je me faisais arnaquer,
consommateur qui est pas informé, lui, il est vraiment en danger, quoi.
Alors, effectivement, l'histoire, c'est que quand j'étais dans un petit supermarché qui vendait de différents produits, il y avait du beurre, donc j'ai pris une plaquette de beurre à la volée, et en voyant marqué sur l'emballage, beurre sélection. Donc, c'était marqué en anglais, mais c'était marqué beurre sélection. J'avais regardé, c'est marqué Made in France avec un petit drapeau français, je me dis, c'est génial. Bref, j'avais pris ça. Et arrivé à la maison, c'est mon épouse qui me dit, mais c'est ton truc, c'est pas du beurre, quoi. Et effectivement, quand j'ai regardé enfin la liste d'ingrédients qui était marquée au dos et en tout petit, j'ai vu que c'était une margarine colorée avec...
Blend.
C'était un blend, voilà, un mélange.
Un mélange, oui.
Une margarine jaunasse.
Une margarine jaunasse, dégueulasse, et qui a fini à la poubelle, quoi. Mais ce qui m'a choqué, c'est que l'industriel avait utilisé un nom qui prêtait confusion avec le mot beurre.
Et il y avait tous les codes. Qui ont alerté votre œil, qui fait que vous vous êtes fait avoir facilement.
Pour moi, c'était du beurre. Il n'y avait aucune ambiguïté.
Il était peut-être emballé justement dans un motif de petite nappe à carreaux ou de...
Non, il avait une espèce d'emballage, je me rappelle, je crois, jaune doré, si je ne me trompe pas, typiquement comme les tablettes de beurre qu'on voit dans le supermarché.
Made in France.
Voilà, Made in France. Sélection en plus, rendez-vous compte, sélection.
Comme quoi, vous rajoutez sélection.
Voilà,
sélection donc, fraîcheur.
Mais sélection, il y a beaucoup d'applications comme celle-là, comme qualité garantie, sélection, gastronomie.
Gastronomie, voilà.
Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est juste pour endormir le gogo.
Gastronomie, gourmand. Fraîcheur aussi.
Fraîcheur garantie,
ça marche bien.
Ça ne veut rien dire. Qui garantit? Qui vous garantit quoi? Rien. Nous, on le mettait sur nos produits fraîcheur garantie. Origine garantie, grand cru, ou pour des produits type le poivre ou autre, grand cru, ça ne veut rien dire du tout.
Et on parlait, alors là, on va sortir un peu de l'industrie, mais on parlait de produits de saison tout à l'heure, et là, on va rentrer dans la période des champignons, et vous disiez que vous consommiez principalement français. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tous ces champignons qui viennent d'Ukraine, de Pologne?
Ah, ça me fait plaisir que vous m'en parliez.
Avec le petit nuage de Tchernobyl qui est passé au-dessus.
Quand j'ai mon premier job d'acheteur, ça a été acheteur de champignons.
Ah,
donc la première fois que je suis allé en Chine, c'était pour acheter des champignons, pour acheter des
champignons de Paris.
Est-ce que c'était avant Tchernobyl?
Oui, j'ai connu Tchernobyl. Figurez-vous qu'à une époque, quand il y a eu Tchernobyl, je suis allé dans les pays de l'Est avec mon compteur Geiger sous le bras.
Oui, parce que les girolles d'Ukraine, vous passez avec votre compteur Geiger au-dessus, il fait du bruit. Hein.
Donc voilà, effectivement.
Bien. On pourrait faire 2 heures avec vous. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Christophe Brusset. On attend le troisième livre maintenant.
Merci à vous. Bah, écoutez, on s'occupe du deuxième et puis on verra la suite plus tard.
Retrouvez À Votre Santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.